Je t'embrasse de tout mon cœur, ta maman qui t'aime, ST.
Lettre lue par
Vladimir Jankélévitch à la Sorbonne, 1961-1962, les 9 premières séances du cours, la tentation. Aujourd'hui, double tentation et prohibitif catégorique. Enregistré le 15 janvier 1962.
Dans ma dernière leçon, j'ai essayé de situer la tentation entre ce que nous appelions la tragédie du débat et le drame du combat. Et d'autre part, nous avons montré que ce qui était en lutte dans la tentation, c'était deux forces tout à fait dissemblables, dissymétriques et hétérogènes l'une à l'autre. Ceci nous prépare à aborder donc le problème qui nous retiendra le plus maintenant, dans les semaines qui viennent, à savoir celui de l'ambivalence de la tentation. En quel sens est ambivalence, ambivalente, ce que signifie cette ambivalence? À première vue, il apparaît comme évident que la tentation est plus compliquée que le désir et qu'elle justifie donc une attention plus particulière que le désir et non pas simplement une description psychologique. Elle est plus compliquée qu'une appétition élémentaire, univalente, simple et naïve. C'est un désir avec exposant, un désir compliqué par lui-même et surtout un désir qui a mauvaise conscience, un désir qui a un peu honte de lui-même, comme l'implique déjà le mot de tentation et l'image d'un homme tenté. C'est un homme qui a un désir, mais un désir qui a une arrière-pensée. Ce désir lui-même a une arrière-pensée. Et en fait, l'ambivalence et en même temps la dissymétrie, la disparité des forces en lutte dans la tentation s'explique par, en général, par l'ambiguïté et de l'amphibolie de l'amphibie qu'est l'homme, de l'amphibie psychosomatique, mélange d'âme et de corps, si bien que, en somme, l'ambivalence de l'homme tenté est le reflet fidèle de l'ambiguïté, de sa composition même, et de sa duplicité en général. La créature est deux, n'est-ce pas ? La créature est deux, pas plus, mais pas moins non plus, ce qui ne veut pas dire, bien entendu, qu'elle soit double en acte, ni même qu'elle se compose de deux principes, d'ailleurs c'est pas de ça qu'il peut s'agir ici, mais qu'il y a en général deux lignes de fait, qu'il faut deux lignes de fait séparées et distinctes pour rendre compte de la complexité d'une vie d'homme. Pour rendre compte entièrement de la vie d'homme, de la vie de l'homme, il faut deux séries de faits, deux séries de parallèles qui composent justement le monde de venir. Mais précisément, et c'est ce que l'on veut dire quand on critique ce parallélisme, ces deux séries ne sont nullement symétriques entre elles, mais elles sont elles-mêmes totalement hétérogènes. Et c'est précisément l'hétérogénéité de ces deux lignes de faits nécessaires pour expliquer toute la complexité créaturelle qui explique elle-même l'ambivalence de la tentation. Et ces deux lignes sont tellement hétérogènes l'une à l'autre, si complètement hétérogènes, qu'on peut même se demander si le verbe être et si le verbe exister ont le même sens dans les deux cas. Car exister pour le corps a un sens très clair et univalent. Exister veut dire être ici ou là, dans l'espace, le localisable et perceptible non seulement par un sens, mais par tous les sens. Là, recoupant et confirmant les données de l'autre, ratifiant l'autre, et le tout donnant le sentiment de la présence. Donc l'homme de chair est l'homme visible, palpable, j'entends le son de sa voix, et je le vois avec mes yeux, je puis le toucher avec mes mains, et ainsi de suite. Mais en outre, nous disons que la présence, dans la mesure justement où elle est présence personnelle, c'est-à-dire présence tout court, car on dira d'une table qu'elle est là, mais on ne dira pas d'une table qu'elle est présente, et encore moins que c'est une présence. Mais d'un homme, on dira non seulement qu'il est là, mais encore qu'il est présent ou qu'il est une présence. Et c'est donc qu'il y a dans ce mot un autre sens, un sens moral, un sens évanescent, pneumatique, et qui est si bien moral qu'un homme peut être là et pourtant absent. Quand par exemple il est là, mais que par sa volonté, par ses yeux, son désir, son regard, tout indique qu'il est à mille lieues, qu'il ne s'occupe pas de nous et qu'il est comme absent. C'est donc que la présence elle-même comporte autre chose, un sens qui ne se touche pas avec les mains, ne se voit pas avec les yeux et qui, même à proprement parler, n'existe pas dans les vibrations produites par le son de sa voix, dans l'atmosphère, bien qu'en apparence, ces vibrations servent, comme on dit, à transmettre le sens et qu'il faille évidemment une voix pour les transmettre, une voix pour transmettre le sens. Mais bien que il n'y aurait pas de sens porté et communiqué s'il n'y avait pas la voix, le sens lui-même, le sens en personne, n'est pas dans les vibrations acoustiques, qui sont des vibrations comme toutes les vibrations, et qui donc diffèrent des vibrations dépourvues de sens, d'un bruit de tonnerre, par exemple, qui n'a de sens que pour l'homme, elles en diffèrent par autre chose, et qui est impalpable. De même que pour les caractères d'écriture, ces caractères servent bien à transmettre le sens, mais que pourtant le sens, qui est inhérent au caractère d'écriture en général, puisqu'ils sont nécessaires pour le transmettre, n'est pourtant ni ici ni là, il n'est pas dans les points d'exclamation, ni dans les points dans la ponctuation, ni dans les accents circonflexes, ni dans tel mot plutôt que dans tel autre. Donc, il y a autre chose, comme on dit volontiers, comme dit M. Gabriel Marcel, souvent, quand il parle de Dieu, il y a autre chose. Il y a autre chose, et autre chose qui n'existe pas, et qui pourtant proteste quand il est méconnu, et c'est même à cela qu'on reconnaît ça, son évidence inévidente, au fait que, lorsque l'on n'en tient pas compte, eh bien, il y a quelque chose qui proteste, qui ne colle pas, qui ne marche pas, et qui est quelque chose, donc, sans existence optique et acoustique, et qui est impalpable, impondérable, atmosphérique, et évanescent, et tout le reste. C'est donc le sens qui justement est transmis par, non pas par les sens, puisque il y a en français une fâcheuse équivoque entre les deux mots, il ne s'agit pas du sens sensible, mais du sens significatif, du sens sémantique. Eh bien, ce sens invisible, évidemment, rend beaucoup plus controversables les évidences inévidentes dont il est la source. Elle les rend controversables et ambiguës. Et déjà, nous entrevoyons que la dissymétrie totale de ces deux ordres de fait fera que les évidences dont ils sont le principe, de part et d'autre, sont très inégalement, très différemment évidentes, ne sont pas évidentes dans le même sens. De même que le mot le verbe être et le verbe exister n'a pas le même sens dans le cas du sens et dans le cas du corps, de même l'évidence n'a pas non plus le même sens dans les deux cas. Et ainsi nous pourrions dire maintenant de que nous appellerons, faute d'un meilleur mot, tout à l'heure, la loi morale, qui est l'autre élément dans la tentation, l'élément qui proteste quand il est méconnu, l'élément invisible et inévident, et pourtant évident. Nous dirons un peu d'elle ce que saint Jean disait de Dieu, personne ne l'a jamais vu. Udaeis popote et oraken theon. Personne n'a jamais vu Dieu sous différentes formes, et il dit encore ailleurs, personne n'a jamais entendu sa voix, ni vu sa forme. Ute phonen, otu popote, akekoate, ute eidos, otu, et oracate. Et encore, dans la première épître de Jean, 4:12, il dit la même chose. Eh bien, il en résulte donc, en laissant de côté saint Jean, puisqu'après tout, c'est de Dieu qu'il parle, et nous, c'est d'autre chose, c'est du sens, du corps, et tout spécialement de cette loi non invisible, absurde, gratuite, et pourtant si évidente, qui est la loi qui m'interdit de manger à un fruit, de toucher à la pomme, de faire la chose si naturelle qui consiste à faire ce dont qu'on a envie de faire, à manger ce qu'on a envie de manger, à aller là où on a envie d'aller, n'est-ce pas? Et il y a, indépendamment des barrières, de la police, du garde-champêtre, il y a quelque chose qui m'empêche de le faire, n'est-ce pas? Et qui est donc le devoir, la loi, tout ce que vous voudrez. Et cela, c'est donc, se rapporte au commandement inspiré par la présence absente, invérifiable, ambiguë et inévidente, c'est-à-dire à la fois invisible et intangible et impalpable et imperceptible, enfin, il faudrait prendre au négatif tous les mots qui se rapportent à la possibilité de l'expérience et que nous avons tendance naïvement, sommairement à hypostasier en disant que c'est le principe spirituel, alors qu'il serait peut-être plus simple et moins métaphysique de parler, comme on le fait souvent aujourd'hui dans les discours, et on en parle d'autant plus qu'on s'en occupe moins, en général, de la dignité de l'homme qui ne s'épuise pas dans sa présence obvie, sensible et concrète, mais qui, je le répète, elle aussi est toujours quelque chose d'autre et proteste contre sont les méconnus, comme tout à l'heure nous le disions. Eh bien, cette dignité en elle-même est quelque chose d'improbable, d'équivoque, et que l'on peut contester. On peut contester, on peut railler. N'est-ce pas ? Les esprits forts peuvent contester et railler, puisqu'en effet, elle ne se touche pas avec les mains. Eh bien, il faudrait ici, évidemment, distinguer deux cas que nous distinguons dans une séance ultérieure, que nous classerons, si c'est possible, mais ça me paraît toujours beaucoup moins important de classer. C'est surtout impressionnant au point de vue pédagogique et clair pour l'esprit, mais en général un peu simpliste. Nous aurons peut-être l'occasion de classer des tentations de nature morale et des tentations de nature raisonnable, purement irrationnelle. Il y a l'homme tenté par... Je ne parle pas du péché originel, puisqu'il s'agit de l'homme pré-moral, et on ne sait pas très bien si c'est des raisons morales, ou des raisons purement religieuses, ou simplement l'interdiction qui l'empêche de croquer la pomme qu'il a envie de croquer. On ne sait pas ce que c'est antérieur à la division du moral et du religieux. Nous distinguons entre autres, donc, des tentations purement morales, dans laquelle l'homme est freiné et arrêté par une loi qui surnaturelle, qui est le souci de son prochain, qui est un jugement de valeur, un problème de valeur, et d'autres tentations qui ont un caractère plutôt raisonnable, par exemple comme un homme qui est tenté par un mets que les médecins lui défendent, n'est-ce pas ? S'il est diabétique, par exemple, il a envie de manger un beau gâteau avec beaucoup de crème. La moralité n'a rien à voir là-dedans, ni les jugements de valeur, les jugements de valeur catégoriques, comme dirait Kant, mais simplement l'impératif hypothétique de la santé. Donc sa tentation, l'homme tenté par un beau gâteau qu'il ne soustrait pas à son prochain, enfin supposer qu'aucun problème moral n'est en jeu, que personne ne le mangera à sa place, s'il a un enfant qui en a beaucoup envie, la tentation devient une tentation morale. Mais s'il n'a pas d'enfant qui en ait envie, et l'impératif, l'interdit ou le prohibitif, plus exactement, plutôt que l'impératif, qui l'empêche d'y toucher, n'a donc pas de caractère proprement moral, mais un caractère plutôt raisonnable. D'où la nécessité où nous serons, j'anticipe un peu sur ce classement, qui sera d'ailleurs plus multiforme que je ne le dis maintenant, des tentations qui sont à base de soucis et d'autres qui sont à base de scrupules. Nous dirons évidemment que celle dans laquelle l'homme est arrêté par la représentation des incommodités plus générales à venir, qui peuvent résulter de l'abandonnement à la sensualité, à la gourmandise, elles sont plutôt inspirées par un souci. Et nous dirons des autres, celles qui sont inspirées au contraire par un commandement moral, de caractère plus surnaturel, qui sont plutôt d'un caractère scrupuleux. Nous dirons de la même manière, je propose tous ces mots, c'est un peu scolastique, mais c'est clair pour fixer les idées, d'appeler les premières, je veux dire les tentations qui sont inspirées par un souci, nous dirons qu'elles sont arrêtées, qu'on trouve en elles l'inhibition soucieuse, pour la distinguer de la prohibition scrupuleuse. Distinguant par conséquent, de manière un peu arbitraire, mais quand même pas trop, juste ce qu'il faut pour que vous me permettiez d'employer ces deux mots dans ce sens, l'inhibition et la prohibition. Mais le plus important, pour les distinguer, donc le souci d'un côté, le scrupule de l'autre, l'inhibition d'un côté et la prohibition de l'autre, donc l'inhibition soucieuse et la prohibition scrupuleuse, c'est de penser à l'élément invisible, inactuel, surnaturel, qui est en jeu dans les deux cas. Dans le premier, qui est celui de l'inhibition soucieuse, et dans lequel c'est la raison, plus le sens de la généralité, qui m'interdit de céder à la tentation, et qui transforme donc l'envie en tentation, c'est la considération du futur. C'est donc l'inexistence de quelque chose qui n'est pas encore, mais qui sera, de l'avenir, pour tout dire en un mot. Et en même temps, d'un avenir, le souci d'un avenir étayé lui-même sur les leçons du souvenir, c'est-à-dire du déjà-plus, de l'expérience. C'est donc l'ensemble de la durée, du temps, dont fait acception un homme raisonnable. L'avenir d'une part, le souvenir en avant, le souvenir en arrière, mais surtout, bien entendu, le futur, et voilà l'inexistence du pas encore qui donne à l'homme retenu un rapport avec une loi indépendante de l'actualité immédiate et de la sensation, et qui lui donne son caractère de gratuité. Et dans l'autre cas, eh bien, c'est-à-dire dans le cas du scrupule et de la prohibition scrupuleuse, l'élément surnaturel qui m'empêche de goûter aux fruits défendus, qui paralyse la fruition de ce fruit, c'est la considération de l'autre. Ce n'est plus le futur par opposition au présent, l'inactuel par opposition à l'actuel, c'est l'autre par opposition à moi-même, l'inévidence de l'autre par opposition à l'évidence de moi-même. Mais naturellement, il aurait fallu être plus minutieux en les distinguant, parce qu'il apparaît tout de suite que, en somme, l'inhibition et la prohibition ne sont point tout à fait sur le même plan, et que probablement l'inhibition est intermédiaire entre l'attrait proprement dit, qui est l'élément positif dans la tentation, et la rétraction prohibitive. L'inhibition, dis-je, est intermédiaire quand ce ne serait que parce que l'homme freiné par le souci du futur, par exemple, quand c'est un homme qui a envie de manger un plat qui lui est défendu pour sa santé, en somme, il est inspiré encore par la considération de son corps, par la matérialité de son organisme. C'est de son corps qu'il est question ici, et puis des dangers que peut présenter certains aliments en raison d'un trouble du métabolisme général, n'est-ce pas, et de la composition du sang et des humeurs. Et dans tout cela, il n'est pas question de l'âme, ni du je ne sais quoi, ni d'un principe pneumatique quelconque, mais il est question de physiologie, d'abord de mon intérêt à moi, bien entendu, de mon intérêt général, d'un intérêt supérieur à la volupté présente, et d'autre part, simplement au nom du corps. D'où il résulte qu'en vérité, l'inhibition soucieuse, dans ce cas, celle qui tient compte de la généralité du temps, est intermédiaire entre la prohibition purement surnaturelle et la très sensible. Elle est d'une part plus proche de la prohibition, puisque, en somme, elle fait acception de ce qui n'est pas encore, et qu'en ce sens, elle se détache de l'actualité, mais d'autre part, elle prend encore en considération le corps et ses impératifs et hypothétiques et ses commandements. Quoi qu'il en soit, il apparaît bien que c'est d'une part la duplicité dont nous avons parlé en commençant, la leçon d'aujourd'hui, et d'autre part, les caractères tout à fait hétérogènes des deux éléments, les deux lignes de fait, je ne sais pas quel mot employer, et je répugne à dire principe, qui sont les deux partenaires de ce duel, de ce duo, c'est cette duplicité qui explique la tentation, et c'est pourquoi on pourrait la mettre en rapport avec ce que, voire entre elles, d'elle à ce que, le philosophe russe Soloviev appelait la pudeur, Vladimir Soloviev appelait la pudeur à certains rapports, car Soloviev considérait comme le principe de toute moralité la pudeur qui résultait précisément de cette dualité. Et en même temps, nous pourrions préciser pourquoi c'est bien la pudeur dont il est question et non point la honte, puisque l'homme éprouve un sentiment d'arrêt, c'est-à-dire sans lui-même un coup de frein pour un péché qu'il n'a pas encore commis. Si le péché avait déjà été commis, après la faute, il ne serait plus temps de parler de pudeur, il faudrait parler de la honte. L'homme a honte de la chose qu'il a commise. Tandis que, comme il s'agit d'un péché encore à commettre, n'est-ce pas, du péché de la minute qui vient, et que peut-être je ne commettrai pas, il serait plus juste de dire la pudeur, qui est une anticipation de la honte, une anticipation anticipée, et une anticipation avant le fait, et par conséquent, qui n'est pas vraiment, à cet égard, d'une honte. La honte elle-même. D'autre part, on pourrait ajouter encore que le caractère un peu irréel des commandements qui sont le principe de la pudeur justifie l'emploi, en effet, d'un mot un peu irrationnel qui inspire à l'homme une honte en apparence injustifiée, dans l'immédiat injustifiée, qui se justifie finalement plus profondément pour des raisons générales, mais qui semble ne pas se justifier dans l'immédiat. Et ainsi, montré cette dualité en elle-même, il faut ajouter que la tentation proprement dite est donnée lorsque nous avons d'une part les entraînements naturels de la chair, n'est-ce pas, ce que nous appelions la semaine dernière à la suite des théologiens, n'est-ce pas, concupiscentia, la concupiscence, en faisant un mélange de toute la sphère sensible, n'est-ce pas, condamnée pour l'occasion, n'est-ce pas, dans son ensemble, et considérée comme ayant une unité à cet égard, la pente de la naturalité, qui est ici la sollicitation directe à l'instinct égoïste et qui est de l'ordre du tropisme. Eh bien, d'une part, ces entraînements représentent, voilà de nouveau la dissymétrie inhérente à la tentation, elles représentent en somme des indications extrêmement claires, extrêmement simples, éloquentes et inambiguës, n'est-ce pas ? Le gourmand sait dans tous les cas, si la tentation ne s'en mêlait pas, S'il n'éprouvait pas une envie compliquée, une envie interdite, une délicieuse envie, qui est une tentation, n'est-ce pas ? Une envie devenue passionnante par le fait qu'elle est interdite, et l'homme est compliqué en cela, n'est-ce pas ? Il l'aime mieux, enfin je ne veux pas en dire trop aujourd'hui, il aime mieux l'envie interdite que celle qui ne l'est pas, il aime mieux être tenté que d'avoir envie. Et donc il est un être compliqué. S'il n'était pas si compliqué, bien entendu, la gourmandise en elle serait tout à fait simple et inambiguë. Et inambiguë, et d'ailleurs, elle peut le redevenir à tout moment, même chez un homme extrêmement raisonnable, qui en considérera l'avenir, et qui, tôt ou tard, par exemple, quand personne ne le voit, quand il est assuré de l'impunité, de l'anonymat, de l'incognito, revient à ses impératifs catégoriques de l'appétit, tout simplement, sans autre forme de procès, si raisonnable qu'il soit. Et comme si ces indications étaient en effet des évidences indiscutées, inconditionnelles, axiomatiques, et véritablement des impératifs catégoriques, au sens à l'envers, comme Aristote dit du bonheur, dans des termes presque identiques à ceux de Kant, mais renversés, que le bonheur est la seule chose que l'homme recherche pour elle-même. L'homme recherche le plaisir pour le bonheur, il recherche la richesse pour le plaisir, mais le bonheur lui-même, il le recherche pour le bonheur. Donc la raison du bonheur, de la recherche du bonheur, c'est le bonheur lui-même. On ne saurait appliquer à des termes plus qu'anciens au bonheur, à moins que ce soit Kant qui ait renversé Aristote et appliqué au devoir et à la loi morale ce que Kant dit, ce que Aristote disait du bonheur lui-même. Eh bien, au regard de ces avertis, de ces indications, si claires et si simples, au regard de ces indications, un avertissement raisonnable, ou un avertissement surnaturel, selon les cas, selon qu'il s'agit du souci ou du scrupule, mais qui, dans tous les cas, apparaît d'abord comme un mouvement second. Comme un mouvement secondaire, par opposition à la primarité de la gourmandise, de l'appétit, de la concupiscence, si bien que l'ordre des facteurs, au moins dans une chronologie idéale, est bien déterminé dans la tentation, le coup de foin est toujours secondaire, si bien que l'avertissement raisonnable ou scrupuleux est à la fois secondaire et négatif. D'ailleurs, ça revient peut-être au même. Car il est secondaire parce qu'il est négatif. Bergson disait, ou à peu près, en d'autres termes, et parlant d'un autre problème, que la négation est toujours secondaire par rapport à l'affirmation. L'homme est un être qui dit oui. J'ai dû déjà dire cela à peu près dans ces termes au début de ce cours. L'homme est un être qui dit oui, et qui d'abord dit oui, n'est-ce pas ? Ses sens disent oui. Et lorsqu'il ouvre les yeux, ses yeux disent oui. Et il ne nous offre qu'une positivité affirmative. Et le non résulte toujours d'une reprise, d'une conscience, d'une réflexion, d'un avertissement. Oui, mais ça n'est pas si vrai que ça en a l'air, n'est-ce pas ? Oui, mais l'apparence ne correspond pas à la vérité. C'est donc, disait Bergson, un jugement sur un jugement. Alors laissons de côté la négation selon Bergson. Il apparaît qu'en effet, si nous l'appliquons à la tentation, cela peut nous expliquer pourquoi l'attrait de l'objet d'envie, de l'objet tentant, est toujours primaire, et pourquoi le refus, le repli sur soi, a toujours un caractère secondaire, et par là même, un caractère négatif. C'est pour refuser que l'homme se rétracte. Le oui est donc toujours spontané, et le oui et le non est secondaire à cet égard. C'est donc quelque chose comme que nous appellerons, si vous voulez, j'y reviendrai tout à l'heure, en analysant de plus près l'ambivalence de la tentation, comme l'onde de retour, n'est-ce pas, l'onde de reflux qui se replie sur l'onde primaire, comme les vagues qui vont à l'assaut des plages sont freinées par le reflux de la vague précédente qui les affaiblit. De la même manière, l'homme qui s'élance vers le mets convoité, vers la grappe de raisin, est freiné, arrêté, paralysé, retardé par l'onde de retour dont le principe est la raison ou le sens moral, selon les cas, selon qu'il s'agit de soucis et de scrupules. Alors il faudrait donc distinguer les cas dans lesquels l'homme est complètement freiné, reste sur place, comme un homme lorsque les deux forces sont équivalentes, bien que je me sois défendu de voir là un conflit de forces équivalentes, il peut arriver pourtant que l'homme reste sur place, ou bien qu'il cédera, mais plus tard, Il va délibérer pendant quelques semaines, quelques instants, mais il finira par céder. Et quant à Ève, comme vous savez, elle n'est pas longue à se décider, à lire tout au moins la Genèse. Elle ne délibère pas très longtemps, et même pas du tout. Elle cède tout de suite. Et on voit pas très bien même la trace du combat dans tout cela. Et il y a donc, comme vous le voyez, une onde inverse qui n'est pas du même ordre, parce qu'elle est même plutôt d'ordre inverse, à ce qu'on peut appeler l'onde de ravisement qui vient interrompre l'élan vers l'autre. C'est l'inverse. Quand nous disons par exemple que l'homme se ravise, nous parlons cette fois de l'élan vers l'autre, de la générosité comme étant un instinct primaire, une impulsion primaire, et dans laquelle l'homme est freiné par le souci de son propre avenir. Par exemple, sur le point de donner de l'argent à quelqu'un, parce qu'il a bon cœur, c'est le premier mouvement, il réfléchit qu'il aura besoin de cet argent demain pour payer son loyer. Aujourd'hui, enfin, peu importe. Et l'onde secondaire, cette fois, est donc l'égoïsme. Nous parlons ici dans un autre registre, dans le même langage, mais inverse, dans un autre registre, puisque dans notre langage d'aujourd'hui, c'est l'égoïsme qui est l'onde primaire, au contraire, et dans laquelle l'homme est freiné par la considération de quelque chose d'invisible, de non présent, de futur, de surnaturel, et quelquefois qui est le souci du genre humain, en général, si tenter qu'il y soit engagé, et qui ralentit, conteste ou paralyse son impulsion. D'une manière ou d'une autre, vous le voyez, on peut dire, tout au moins dans notre langage d'aujourd'hui, où c'est l'égoïsme qui est considéré, ici la concupiscence, l'impulsion, l'appétit, comme l'élément primaire, que le mouvement qui la freine est un deuxième mouvement. Le veto est un deuxième mouvement. Et par conséquent, en somme, l'appétit, l'élan vers la chose désirable ou désirée, plutôt désirée que désirable. D'ailleurs, la chose désirée, en fait, cet élan a toujours l'initiative. C'est lui qui est premier et qui a donc toujours l'initiative, comme il apparaît même dans le mot de tentation, n'est-ce pas? S'il fallait, enfin, en peser le poids, si vous voulez, en étudier la sonorité, comme on approche un objet sonore de l'oreille pour voir si le son est pur. Eh bien, en approchant de l'oreille mentale ce mot de tentation, on trouverait que l'élément du désir il est plus grand que l'élément de la rétraction raisonnable, puisqu'en somme, la tentation, c'est un désir. C'est un désir contrarié, mais enfin, le substantif, c'est le désir. Et contrarié, c'est la manière d'être de ce désir. Un homme tenté est un homme qui a envie. Enfin, il a envie d'une certaine manière, mais envie quand même. Si bien que il suffit pas de dire que la chose et le mot sont ambivalents, qu'il y a en elle le premier mouvement et le deuxième, l'appétit et la réflexion. Il faut dire aussi et surtout que c'est l'appétit qui est l'élément exotérique, l'enveloppe apparente et la plus importante, et c'est la réflexion ou encore le scrupule qui est l'élément caché, invisible et ésotérique, et souvent tellement faible que c'est à peine si on entend le son de sa voix, on sait déjà que l'homme tenté a pneumatiquement succombé. C'est comme s'il avait déjà succombé. Tout le reste, c'est même pas la peine d'attendre. C'est pas supposer que je sois le spectateur d'une dame tentée par une belle vitrine, elle entrera, n'est-ce pas? Elle entrera, ça n'est qu'une question de minutes. Donc les dés sont joués, c'est comme Ève, la première dame, n'est-ce pas, qui a aussi été tentée. Et la brièveté même de cette scène sur laquelle je parle depuis des semaines, et pourtant ça tient à un ou deux versets, quoi, c'est insignifiant. La brièveté même de cette délibération montre que, en somme, les deux éléments n'étaient pas à égalité, n'est-ce pas, mais que l'appétit emportait tout. Et non seulement là est l'enveloppe immédiatement apparente, alors que l'autre est caché, invisible et pneumatique, mais encore, comme vous le savez également, les conséquences du péché déjà virtuellement commis, ces conséquences qui s'annoncent vont tout submerger. Elle submerge tout dans la suite des temps en déclenchant l'histoire. Et par conséquent, la réponse de la femme et de l'homme, après tout, n'est-ce pas, nous aussi, à sa suite, à la tentation, qui est la réponse affirmative, qui est la réponse oui, qui est le monosyllabe oui, cette réponse déjà impliquée dans la tentation, parce qu'on peut dire que dès l'instant que le serpent a fait miroiter les avantages de cette fruition, le bon goût du fruit et la science, du bien et du mal qui accompagnera, le péché est déjà commis, et ses conséquences ont donc un foisonnement, un pullulement, une exubérance qui font que c'est le cas de dire, comme le dirait sans doute Pascal, que le mal est bien plus nombreux que le bien, que le mal est légion, que le mal est foisonnant, que le mal est mousseux, n'est-ce pas, comme le champagne. Non pas que le champagne soit le mal, mais enfin, il y a dans le mal quelque chose de mousseux. Et ce que je rappelais également la dernière fois, en parlant non point d'Ève, mais de Saint-Antoine, et en m'excusant de mêler tout cela, puisqu'en somme, il n'y a que le fait de la tentation qui nous intéresse. Saint-Antoine, lui, finalement, dit non. C'est pas, bien sûr, il dit non, lui. Mais la tentation, elle-même, proprement dite, ses mirages, ses miroitements, tout cela occupe une place immense, n'est-ce pas, si vous relisez, comme je l'ai fait moi-même, à cette occasion, sans cette occasion, je n'aurais certainement pas relu la tentation de Saint-Antoine, de Gustave Flaubert, vous verrez que tout ce roman est occupé par ce foisonnement, ce pullulement, par ce caractère onctueux du péché et de la tentation. Et ainsi, nous avons donc dit qu'il y a un élément exotérique et un autre qui est ésotérique, l'un qui induit l'autre, mais c'est le cas de rappeler ce que j'ai dit et ne rappellerai plus maintenant, la dernière fois, c'est qu'en vérité, ce désir que j'ai de la chose n'induit pas en moi un contre-désir pour le combattre, et qui le combattrait à égalité, par exemple d'avoir deux désirs différents, pas comme je disais parler la semaine dernière du désir de deux fruits, mais que, en somme, le désir induit quelque chose qui est tout à fait différent du désir en général, qui n'a pas le caractère affectif, qui est un souci raisonnable ou qui est un scrupule, et qui est le principe d'un veto. Donc, d'une part, le positif, et d'autre part, le négatif. D'une part, le conseil direct, la sollicitation, et de l'autre, quelque chose qui est purement représentatif et qui n'a pas de caractère vécu. À cet égard, on peut dire, en comparant l'exubérance du désir, d'une part, et l'invisibilité du veto qui s'oppose à lui, qui prétend lui faire barrage, nous pourrions les comparer, si vous voulez, au rapport de l'attention avec la distraction, n'est-ce pas ? L'attention de l'homme, l'attention est un effort exprès, intermittent, que fait l'homme assiégé par les sollicitations de toutes sortes pour n'envisager que son problème. C'est donc un effort difficultueux, un effort intense, un effort laborieux, et de même que l'est la loi qui m'interdit de succomber. Et cet effort de l'homme pour rester attentif est perpétuellement distrait par, notamment chez le paresseux-né, n'est-ce pas, chez l'homme paresseux par nature et par naissance, cet effort est perpétuellement distrait par un état continu, chronique, de détente, de rêvasserie et d'inattention, par un état diffus. D'ailleurs, ce parallèle que nous faisons entre l'attention et la tentation, n'est-ce pas, l'homme distrait et l'homme sollicité par les tentations, et en somme, c'est un peu le problème de Saint-Antoine, parce que les deux vont ensemble. Saint-Antoine est à la fois, si vous voulez, un ermite, un anachorète dans le désert, n'est-ce pas, un ermite du désert qui est tenté par, censément par le diable. Et dans ce diable, il y a aussi des féminités et des repas somptueux, n'est-ce pas ? Et est aussi distrait de l'attention à une seule chose, de l'attention à Dieu, de ses lectures, et d'un homme distrait. Et au XVIIe siècle, on interprétera volontiers, chez Malebranche par exemple, l'attention dans ses termes religieux. Et la distraction également, dans ces termes religieux. Le diable qui me tire par la manche n'est pas seulement le diable n'est pas seulement celui qui veut m'induire en péché, mais celui qui me fait faire des fautes d'orthographe, n'est-ce pas ? Qui fait faire des fautes de calcul aux gamins, comme Ces papillons noirs qu'on dessine dans les livres d'enfants, n'est-ce pas, et qui sont les fautes d'orthographe qui font que les enfants, aujourd'hui, on ne sait pourquoi, sont distraits. Ils font des fautes de calcul, des fautes d'orthographe, des taches d'encre. C'est le diable qui voltige dans la salle sous forme d'une mouche, le papillon noir, et qui les distrait. Il y a donc, comme l'indique la méthodologie de la vie religieuse et la méthodologie mathématique au XVIIe siècle, qui souvent coïncide, un parallèle entre l'état de distraction de l'homme sollicité par les impressions extérieures et la tentation de l'homme sollicité par le péché. Et inversement, un effort de reprise attentive ou réfléchie de l'homme, d'une part sur cette distraction, d'autre part sur la tentation. Et c'est donc que, là aussi, il semble que le veto dont nous parlions, pour revenir à la tentation, est une chose expresse, intense, intermittente, mais qui opère à rebrousse-désir, si on peut ainsi s'exprimer, c'est-à-dire à rebours des inclinations, et à contre-courant, pour que nous remontions vers l'amont, au lieu de descendre vers l'aval, en suivant la pente de nos sens. Mais cet effort ne peut être que discontinu. Et ainsi, il y a dans la sollicitation continuelle des sens, qui est la tentation, quand on dit que, par exemple, un enfant est tenté par la grande ville, ou dans l'existence urbaine, où les hommes sont les uns sur les autres, n'est-ce pas, sollicité par la rue, par les réclames, les fleurs de flamme, la nuit, à Broadway, n'est-ce pas, qui incarne la tentation par les sourires au coin des rues. Eh bien, ces tentations représentent, si vous voulez, le flux multiforme, polymorphe, perpétuellement renouvelé des sollicitations des sens qui nous inclinent toujours au laisser-aller et qui forment la trame ininterrompue de l'existence sensible. Le fond de l'existence sensible, c'est donc, ce sont ces sollicitations par opposition au rappel à l'ordre de la loi qui, lui, n'intervient que de temps en temps et de loin en loin et parfois une seule fois dans la vie. Si bien que, de nouveau, il apparaît que, toujours, ce rappel à l'ordre n'a pas l'initiative car il n'intervient qu'à l'occasion du divertissement, n'est-ce pas ? La tentation est l'occasion qui lui permet d'intervenir, mais cette occasion est elle seule, à seule l'initiative. Si bien que le deuxième mouvement est toujours à la remorque, en somme. Eh bien, de là, il y aurait de nombreuses conséquences à tirer, d'une part au point de vue du premier mouvement, et d'autre part au point de vue du second mouvement. La tentation n'est nullement une synthèse des deux, enfin, une belle synthèse conciliant les contradictoires à la manière hegelienne, ce sont des vérités pour les livres, n'est-ce pas ? La tentation n'est point une synthèse, la preuve qu'elle n'est pas une synthèse de l'un et de l'autre, je veux dire de l'appétit et de la loi, c'est qu'elle est instable, en équilibre toujours précaire. Dans ma première leçon, je l'ai comparé aux statues baroques, n'est-ce pas, qui sont sur le rebord du temple, sur le pinacle, prêtes à tomber, à s'élancer dans le vide. C'est donc qu'elle est quelque chose en déséquilibre et qui ne demande qu'à muer, qui ne demande qu'à virer. Et que d'autre part, elle implique un déchirement intérieur et que c'est cela même qui la rend passionnante. L'homme tenté ne sait pas toujours s'il succombera, bien que le philosophe qui le regarde le devine, le sache un peu par avance. Mais les dés ne sont pas jetés encore, tout n'est pas joué puisqu'il est tenté. S'il est tenté, c'est que tout n'est pas joué. Donc, le fait même que les choses se décideront, se résoudront dans un sens ou dans l'autre, prouve que la tentation n'est pas la solution, n'est-ce pas, la solution du conflit, mais qu'elle est le conflit lui-même, et par conséquent, le contraire d'une synthèse, et il faut qu'elle le soit pour avoir le caractère dramatique et passionné qu'elle a pour l'homme, et pour qu'elle soit recherchée par l'homme comme elle l'est. Il en résulte d'abord des conséquences du point de vue de l'appétit proprement dit, et d'autre part, du point de vue du veto. D'une part, du point de vue de l'appétit, nous disions, ou si je ne le disais pas, c'est maintenant qu'il faut le dire, la tentation est une envie gênée. C'est une envie entravée. C'est pas une envie tout court, c'est pas un homme qui a envie purement et simplement, qui a envie un point c'est tout. Comme un monsieur qui a envie un point c'est tout, ça ne pose aucun problème moral, ni aucun problème rationnel, c'est pas, rien ne lui interdit de faire ce qu'il a envie de faire, ni le médecin, ni la loi morale, qui n'a rien à voir là-dedans. Par contre, la tentation est une envie entravée et entravée par un obstacle intérieur. Et par conséquent, qui se fait un peu honteuse en employant le mot honteux dans son sens général et non point dans son, le sens précis des moralistes, puisque tout à l'heure, je disais que ce qui est la tentation, ce n'est pas la honte, mais la pudeur. Mais dans un sens plus général, on peut dire effectivement que la tentation est un désir qui a un peu honte par avance, bien qu'elle n'ait encore rien fait de mal. La tentation est une envie avec son ombre, tandis l'envie n'a pas d'ombre, n'est-ce pas? L'envie d'un animal, par exemple, le désir qu'a le chien d'un os, à condition que ce soit encore un chien peu intelligent, qui ne sache pas qu'il y a des os qu'il ne faut pas manger, par exemple, parce que les hommes les conservent, ou parce qu'il attrapera une correction. Supposons un chien, complètement cynique, et qui ne sache rien de l'homme, non humanisé, eh bien, lui aura une envie sans ombre. Mais l'homme ne connaît pas des envies de cette sorte. Toutes ces envies, toutes les envies de l'homme ont une ombre portée. C'est-à-dire que cette ombre portée est comme l'anticipation du remords que l'homme n'éprouve pas encore, puisqu'il n'a pas, dans l'hypothèse où nous nous plaçons, nous serons en suspension toute l'année, puisque ce cours est à long suspense, pour parler le langage aimable des journalistes d'aujourd'hui, l'homme sur le bord, sur le point de commettre, toute l'année, nous allons avoir devant l'esprit l'image fatigante d'un homme sur le point de croquer la pomme, et de manger le fruit. Eh bien, dans cette hypothèse, où le péché n'est pas encore commis, on ne peut pas dire qu'il éprouve du remords, mais certainement, il y a dans l'anticipation, la représentation anticipée du remords que tout à l'heure il éprouvera, et qui sera la conséquence de sa défaite, si défaite il y a. Donc, l'homme vit par avance la peine morale d'un péché qu'il n'a pas encore commis. Il vit par avance la peine d'une faiblesse à laquelle il est sur le point de succomber, mais à laquelle il n'a pas encore succombé. Il y a donc, dans la tentation, non point à proprement parler l'hésitation, car cela ne serait pas suffisant et n'indiquerait pas la nature du conflit, mais il y a en elle, en plus, la mauvaise conscience d'une faute préimaginée et non commise. C'est-à-dire que, pour dire les choses tout simplement, que l'homme tenté est un homme qui a envie et qui, en plus, sait que c'est mal. Mais c'est encore peu dire, car nous allons voir que non seulement il a envie et que d'autre part il sait que c'est mal, mais il a d'autant plus envie qu'il sait que c'est mal. Et en un sens, il n'a envie que parce qu'il sait que c'est mal. Il a envie d'abord parce qu'il a envie, mais il a envie aussi parce qu'il sait que c'est mal. La preuve, c'est que souvent, il suffit de le lui permettre pour qu'il ne le fasse pas, pour qu'il ne succombe pas. Mais tout cela, c'est ma dernière leçon au mois d'avril. Et nous n'en sommes point encore là. Mais les choses elles-mêmes sont plus compliquées que je ne viens de le dire. Nous disions une tentation et une ambivalence de la tentation, et par conséquent, il faudra dire que la tentation est un complexus, n'est-ce pas ? Une envie qui est elle-même une envie complexe, le désir d'un homme attiré et retenu, mais de telle manière qu'il n'est pas retenu de la même façon qu'il est attiré. Il faut bien comprendre qu'il est attiré et retenu, mais d'une manière différente, puisque il est effectivement attiré en avant par une force réelle, un tropisme physique et un attrait réel, et qu'il est retenu en arrière, sans être retenu. Il est retenu par un lien purement imaginaire, en apparence, par un lien invisible. Donc, il est, si on veut, déchiré, mais déchiré parce qu'il le veut bien. Il est déchiré parce qu'il est libre, en raison de sa liberté. Eh bien, je vais étudier successivement les deux points pour les deux points suivants pour décomposer le mécanisme, à vrai dire, assez délicat et assez subtil de la tentation. C'est le mécanisme de la tentation qui est subtil. C'est pas l'analyse que je vais en faire, qui au contraire sera très grossière et probablement flottante. Je m'en excuse en raison du caractère complexe de ce mécanisme. Nous le décomposerons donc en deux moments, qui sont les suivants. D'une part, l'envie est le seul motif de l'interdiction. Deuxièmement, l'interdiction est le seul motif de la tentation, plutôt la seule cause de tentation. D'une part, l'envie est le seul motif de l'interdiction. Il faut comprendre pourquoi l'homme est tenté par l'objet même de son désir. Pourquoi faut-il que cette tentation, si compliquée, n'est-ce pas, d'un être compliqué, soit précisément la chose qui est l'objet du plaisir ? Et il est bien évident que si on s'exprime dans ces termes, en disant que la raison de l'interdiction, c'est le plaisir que je prendrai à manger la pomme, si on me l'interdit uniquement parce que j'éprouve du plaisir à la manger, parce qu'elle a bon goût, à vrai dire, c'est là le motif d'un veto immotivé. Autant dire que l'interdiction est immotivée, n'est-ce pas ? Que la raison de l'interdiction, c'est l'interdiction elle-même. Que c'est le plaisir de m'interdire un plaisir. C'est le plaisir de m'interdire de goûter à la pomme. Voilà ce qui apparaît d'abord, si on est superficiel. Et à condition de penser, mais est-ce qu'il n'y a pas là déjà des justifications morales, à condition de penser que le fait d'éprouver du plaisir soit en lui-même déjà mauvais. À première vue, est-ce que le plaisir, le fait d'éprouver du plaisir est mauvais? Et est-ce que c'est la raison suffisante du veto et des sanctions dont le veto est assorti? Il faut le penser et pour qu'on m'interdise cette jouissance en apparence innocente. Vous remarquerez comme moi, pour y revenir, je dis toujours que c'est la dernière fois, mais c'est jamais la dernière parce que c'est si commode. La Bible, à cet égard, que quand on relit ce chapitre de la tentation, on voit que là où le texte est complètement muet, ce sont les raisons véritablement morales pour lesquelles on défend cette chose au pauvre Adam, n'est-ce pas ? Il n'y a aucune raison morale valable. On lui dit « n'en mange pas, parce que si tu en manges, tu mourras ». Et d'ailleurs, Dieu lui-même ne parle pas de la science du bien et du mal. C'est le malin, le serpent, qui lui sait des choses, a entendu des secrets, et connaît, et dans les petits papiers de Dieu, peut-être. Il sait que l'homme en sera trop long, peut-être, s'il mange du fruit. Mais en vérité, d'une manière ou d'une autre, il ne semble pas que ce veto soit un veto de caractère moral. Il n'y a pas de justification éthique, n'est-ce pas, qui est le péché d'Adam, et par conséquent, en apparence, uniquement un péché de désobéissance. Il n'a pas obéi à Dieu, mais à part cela, on ne voit pas la nature morale de la faute qu'il aurait commise. Ce n'est point un mensonge, ce n'est point non plus que... Même que le fruit lui fut peu recommandé parce qu'il serait nocif, par exemple, ou indigeste, si vous voulez, ce serait au moins un impératif hypothétique relatif à sa santé, mais ce n'est rien de tout cela. Donc, à cet égard, le motif paraît immotivé. C'est que il faudrait donc penser, en allant plus loin, que le fait d'éprouver du plaisir, et surtout de se laisser aller à ce plaisir, est mauvais en lui-même, et par conséquent, condamnable en lui-même, ce qui, après tout, est l'avis de Kant, malgré les précautions qu'il faudrait prendre en le disant, mais je ne fais pas un cours sur Kant, c'est à mon collègue Alquier à le faire, qui connaît cela beaucoup mieux que moi. On pourrait dire évidemment que répondre que Kant condamne en principe uniquement l'action que l'on fait par plaisir, mais qui ne condamne pas nécessairement l'action que l'on fait avec plaisir, l'action que l'on fait accompagnée de plaisir. Et s'il la condamne, ça n'est pas parce que le plaisir est mauvais en soi, mais simplement parce que, en principe tout au moins, chez l'homme déchu, l'homme d'après le péché, on ne sait jamais, quand un homme fait une chose avec plaisir, s'il ne la fait pas par plaisir. On ne sait pas on ne peut pas savoir si le plaisir n'est pas le motif de son action. Et alors ça, c'est grave, car une action que l'on fait par plaisir, c'est-à-dire dont le plaisir est le motif, est une action condamnable. Mais si par hasard je la fais vraiment pour l'amour du prochain, et qu'en plus j'y prends un peu de plaisir, ce plaisir ne fait que rendre la chose scabreuse, un peu suspecte, à inviter le moraliste à faire attention. Est-ce que par hasard, il ne le ferait pas par plaisir? Est-ce que cet accompagnement ne serait pas le véritable motif? Mais enfin, en principe, si on pouvait se représenter un homme, une créature du péché, conçue et née dans le péché, comme dit l'Écriture, et qui fut capable de faire une chose avec plaisir, bien qu'il la fît pour un autre, en principe, on pourrait le lui permettre. En principe, il n'apparaît pas que le plaisir soit en lui-même condamnable. Mais ça revient un peu au même, car pour l'homme déchu, et après tout, nous sommes tous, pour Kant, des hommes déchus, il n'en est pas moins vrai que ce plaisir en lui-même finit par paraître condamnable. Et par conséquent, à l'impératif catégorique du devoir, il ne faut pas s'étonner, s'il correspond, dans... je me permets de parler Ce langage, un peu sacrilège, un prohibitif catégorique du plaisir, n'est-ce pas? Le prohibitif catégorique du plaisir. Et ils ont de quoi en commun ceci, l'impératif catégorique d'une part et le prohibitif catégorique d'autre part, ont ceci en commun que dans les deux cas, le parce que renvoie à lui-même par une causalité circulaire et non point pour d'autres raisons. Et il faut faire son devoir parce que c'est le devoir et parce qu'il le faut. Et parce que d'ailleurs c'est la définition du devoir qu'il faut le faire. Comme il faut faire le bien, parce que c'est le bien, et dire qu'il faut faire le bien parce que c'est le bien, et dire qu'il faut faire le bien parce qu'il faut le faire, ça ne dit pas grand-chose, mais dans les deux cas, ça dit exactement la même chose, car justement, le bien est ce qu'il faut faire. Donc, il ne faut pas s'étonner, il suffit de prononcer ce nom pour avoir envie de le faire. Et vice-versa, pour ajouter ceci, de mon cru, cette fois, n'est-ce pas, prohibitif catégorique, et qui concerne directement mon sujet, le plaisir doit être rejeté parce qu'il est le plaisir. Pourquoi faut-il rejeter le plaisir? Parce qu'il est plaisant, parce qu'il plaît. Bon, qu'est-ce qu'il y a de condamnable dans le plaisir? C'est le fait qu'il plaît. Ou en d'autres termes, il faut rejeter le plaisir parce qu'il est agréable et que l'agrément est mauvais. Alors dire que le plaisir, il faut le rejeter parce qu'il est mauvais, c'est autant dire que c'est une tautologie. C'est autant dire qu'il faut le rejeter parce qu'il faut le rejeter. Il faut le rejeter parce que le plaisir est condamnable en soi. C'est donc une pétition de principe. Donc, dire en un mot que le plaisir est le mal n'est point une explication, mais une pétition de principe qui exprime simplement, sous une forme plus prétentieuse, plus métaphysique, qu'il faut le rejeter. Mais on ne dit pas pourquoi. On ne dit pas pourquoi, parce que, en somme, on suppose que ce rejet du plaisir et ce caractère a priori condamnable du plaisir, d'une pomme qu'un homme veut manger. Il y a bien d'autres fruits au paradis qui sont encore plus beaux que ça, probablement, des magnifiques ananas. Il peut manger de tous les fruits du paradis. Il n'y a qu'un seul fruit qu'il ne peut pas manger. Pourquoi? Le fruit de l'arbre de la vie, de l'arbre de la science du bien et du mal. Et ce n'est pas évidemment une explication. Il faut croire qu'il y a là une évidence ténébreuse, imprescriptible, indémontrable et axiomatique. Pourtant, ne nous pressons pas trop de dire que cet impératif est purement, ce prohibitif, pardon, est purement catégorique, absolu, s'explique par lui-même, est un ultime indémontrable. En vérité, on peut creuser et trouver d'autres indémontrables, et jusqu'au dernier. On peut trouver d'autres présupposés, et nous nous arrêterons seulement que nous aurons trouvé le dernier, qui expliquera donc à des éléments de la tentation le plus important. D'une part, il y a des jugements de valeurs moraux, malgré tout, qui sont implicites. Je suppose qu'on pourrait dire l'agrément est coupable. Pourquoi est-il coupable? Si vous voulez absolument me faire dire autre chose, pour expliquer pourquoi l'agrément est coupable, je vous dirai qu'il est coupable parce que, en général, sans autre faute expresse, la facilité est coupable. La facilité est condamnable. La facilité n'est pas digne d'un homme. Il est indigne d'un homme de succomber à la facilité, d'aller dans le sens de la plus grande facilité. Et la facilité, à son tour, pourquoi est-elle coupable? L'agrément est coupable parce qu'il est la facilité, mais c'est un peu comme la vertu dormitive de l'opium, la vertu dormitive des somnifères. Les somnifères font dormir parce qu'il y a une vertu qui nous plonge dans le sommeil. De même manière, le plaisir est coupable, mais cette fois en lui donnant un autre nom, en disant qu'il est la facilité. Eh bien, la facilité, à son tour, est coupable parce qu'en elle, probablement, l'homme reconnaît plus facilement la paresse, le goût du moindre effort, et en général, ces pentes de la naturalité qui sont particulièrement répugnantes et qui sont la marque de l'égoïsme. La marque de l'égoïsme est en effet cette recherche du moindre effort et ces pentes de la naturalité. Vous remarquerez, si vous avez dans l'esprit une lecture de Kant, tant soit peu récente, que Kant parle volontiers plutôt de Neigung, inclination, plutôt que de plaisir. Et dans notre langage, eh bien, l'inclination exprimerait peut-être plus clairement que le plaisir. Cette pente, le nom même de l'inclination évoque l'attrait de la pesanteur, de la gravité. C'est-à-dire la gravitation, le géotropisme qui tire le lourdeau vers le bas et qui représente la facilité. Pour tomber, il n'y a qu'à se laisser aller. Et le plomb de l'ego, le plomb massif de l'ego dans l'égoïsme, nous incline tout naturellement à ce glissement que j'appelais répugnant. Et en troisième lieu, car ça ne suffit pas, l'égoïsme lui-même, et la paresse, et tout le reste, et l'économie d'effort, pourquoi sont-ils répugnants? Eh bien, est-ce qu'ils sont, ils sont répugnants en soi? Eh bien, à leur tour, comme vous voyez, le parce que renvoie quand même à autre chose, ils sont répugnants parce que ils représentent le côté mécanique et inanimé, et en quelque sorte inerte, de notre humanité. Ils représentent la frontière que l'homme a avec l'animal. Ils représentent la frontière commune que a l'homme être volontaire, être libre, avec les êtres d'instinct et d'habitude, avec les automates, avec les machines, et en nous exprimant cette fois dans un langage plus bergsonien que kantien. Si bien qu'en définitive, nous, il ne sera pas difficile de dire qu'il est répugnant de céder au plaisir, non point tellement parce qu'il est le plaisir, mais parce qu'il est la facilité, parce que la facilité implique l'égoïsme, parce que l'égoïsme implique un défaut d'humanité, n'est-ce pas, un démenti à la vocation de l'homme, de la vocation humaine de l'homme, qui fait l'hominité de l'homme, pour ne pas dire son humanité, et en définitive, cette vocation elle-même serait donc, pour l'appeler par son nom, la liberté du vouloir, l'effort par lequel l'homme remonte la pente, au lieu de descendre vers l'aval, remonte vers l'amont, au lieu de céder à la gravitation, au contraire, faire l'effort pour se soulever d'entre les êtres, pour accéder à un monde supérieur. Et ainsi, nous voyons que, finalement, il y a effectivement une préférabilité, c'est-à-dire une échelle de valeur, latente dans cette condamnation, dans cette apparition du veto au sein de l'envie, n'est-ce pas ? Dans le fait que l'envie sécrète le veto, l'interdiction, que l'envie se crée à elle-même une loi qui l'interdit. Que l'homme, ayant à peine eu le temps de tendre vers quelque chose, se formule à lui-même un empêchement moral, un empêchement surnaturel qui lui prohibe cet abandonnement. Eh bien, ce qui finalement justifie le refus de la naturalité, ce seraient ces valeurs de liberté elles-mêmes. Si bien que, dans un langage maintenant plus clair, et que j'ai d'ailleurs parlé dès les premières séances, nous dirons que la surnature qui parle dans la nature, qui est l'onde de reflux dont nous parlions tout à l'heure, c'est la force de dire non. C'est la force de dire non à ce qui sollicite le oui. C'est la possibilité, alors que tout m'invite à dire oui, qu'il y a une grande conspiration autour de moi pour m'obliger à abonder dans le sens de la sensation, à dire oui à la sensation, il y a en moi une force qui refuse et qui dit non.